Bonjour à tous, nous sommes réunis pour un show devant télé-documentaire et c'est pour Journal d'une Bonne. Should I stay or should I go? If you say that you are mine. Alors, Journal d'une Bonne, je l'ai vu au Festival TV de Luchon. Encore un film documentaire que j'ai pu découvrir à ce festival. Et je suis très heureuse parce que nous avons avec nous Valérie Mans, qui est la réalisatrice du film et l'autrice. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Alors on s'est vu en coup de vent au Festival TV de Luchon parce que vous avez tenu quand même à venir présenter le film, mais vous n'aviez pas pu rester. Et j'ai senti vraiment cette sensibilité, cette envie de nous faire partager la vie quand même de Félicité Lavergne.
Oui, absolument, c'était très important pour moi de venir à Luchon, qui est un festival que j'aime beaucoup, pour présenter ce film, parce qu'en fait, c'est un film auquel je songe depuis presque 20 ans maintenant. J'avais à l'époque lu un livre de Anne Martin Fugier sur justement la bonne à tout faire en France au début du XXe siècle. Et en fait, il a fallu attendre la pandémie et mars 2020 pour que je réfléchisse de nouveau à ce sujet. Pourquoi ? Parce qu'il y avait beaucoup de journaux à l'époque qui évoquaient les invisibles, les femmes qui font le ménage, les coursiers, les livreurs, les caissiers, les caissières. Et la société semblait découvrir toute cette population qui a un rôle essentiel dans la vie de nos sociétés. Et puisque je ne pouvais pas tourner, je me suis dit, mais finalement, qui sont les invisibles si je devais faire un film d'archives ? Et c'est là que j'ai pensé aux domestiques et voilà, et à leur rôle dans la société, sachant qu'au début du XXe siècle, il y a 1 million de domestiques sur 15 millions de Français qui travaillent. Donc c'est un film qui me tient énormément à cœur parce qu'il évoque la domination masculine, la domination bourgeoise, la domination culturelle, sociale, la domination sur le corps. Et ce sont des problématiques qui me touchent beaucoup. Alors c'est évidemment une trajectoire tragique. Cependant, il y a de l'espoir parce que c'est également un parcours d'émancipation.
Oui, tout à fait. Alors ce qui est fou, c'est que vous racontez cette histoire. On suit cette femme, cette jeune femme au début, qui est malheureusement contrainte de rentrer dans cet état de bonne.
Absolument, c'est une jeune fille, Félicité, qui a 14 ans, qui vit dans le Massif central. Il y a beaucoup de domestiques qui viennent de Normandie et de Bretagne, et j'ai voulu changer, sachant qu'il y en avait aussi beaucoup qui venaient du Massif central. Et en fait, elle est d'une famille très pauvre, il y a 11 enfants. Et à l'époque, c'est des enfants qui avaient été quand même scolarisés, mais qui devaient très tôt travailler pour envoyer un peu d'argent à leurs parents. Et c'est dans ce cadre que Félicité va devenir fille de ferme à quelques kilomètres de là où elle vit.
Oui, ce qui est poignant. Hein. Dans ce... Alors, tout au long, hein, mais c'est vrai que ce passage-là est très... c'est dur à écouter, dur à comprendre et à se dire que, à cette époque-là, il n'y avait pas de droit. Aucun droit, et c'était la parole des bourgeois qui décidaient s'ils gardaient ou non la personne et comment ils allaient la faire rentrer dans leur vie et surtout ses droits et plus encore ses devoirs.
C'est qu'en fait, ce qui est très poignant au début, c'est qu'elle est vraiment arrachée à sa famille. Elle ne sait pas encore que, comme la plupart, elle ne les reverra jamais, qu'elle ne pourra jamais revenir dans son village natal. Donc en plus, au début du XXe siècle, surtout dans les milieux les plus modestes, on voyageait très peu. Donc en fait, elle va faire un véritable périple en France. Et donc elle est très très loin d'imaginer aussi à quel point elle va devoir s'éloigner de sa famille. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait déjà des droits sociaux, notamment à la fin du 19e, tout avait commencé à être négocié, mais c'est vrai que les domestiques, l'État considère que c'est la vie des familles, que c'est la vie privée, et que la vie privée ne regarde pas l'État. Donc en fait, il faudra attendre les années 1950 pour que les domestiques, puisque c'est le nom de leur statut, puissent avoir une protection sociale. Et c'est vrai qu'ils n'ont aucun jour de congé. Quand ils partent, ils se font renvoyer du jour au lendemain, ils n'ont pas d'indemnité. Si les jeunes femmes se font, ce qui est très souvent le cas, violées soit par d'autres domestiques, soit par les maîtres, dès qu'elles sont enceintes, là encore, elles sont renvoyées avec rien. Donc, et en fait, les domestiques, il y a quelques syndicats, notamment le syndicat du Genêt, il y a quelques revues qui leur sont dédiées, mais en fait, c'est des personnes qui ne s'allient pas beaucoup et qui ne manifestent pas beaucoup. Ils n'ont pas de culture collective, en fait. Et pourquoi ? C'est surtout parce qu'ils n'ont pas le temps, en fait. Ils n'ont pas le samedi après-midi ou un peu de temps libre pour manifester, pour documenter. Et donc, ils ne sont pas du tout aimés par les ouvriers parce qu'ils sont trop proches des possédants. Donc, ils sont très isolés, en fait, au sein de la société. Et donc, c'est pour ça qu'ils ne vont non seulement pas bénéficier des droits dont bénéficient la plupart des travailleurs français, mais en plus, ils vont être, on va leur enlever les droits, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit d'être élus au conseil municipal, ils n'ont pas le droit d'être jurés aux assises. Et la chose la plus incroyable, c'est que si jamais ils sont attrapés pour un vol, eh ben, en tant que domestique, ils seront condamnés à une peine plus lourde que s'ils n'étaient pas domestiques.
Ah, c'est aberrant, enfin... C'est vrai que moi, je suis sortie de mes gonds, j'ai regardé et je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, je ne sais pas combien de fois j'ai dit, mais c'est pas possible, quoi.
Oui, si. Si, et puis surtout, ça concernait beaucoup de gens, parce que le film commence en 1900, parce que c'est là qu'il y a donc 1 million de domestiques sur 15 millions de Français, ce qui est déjà énorme. Et ça veut dire qu'en fait, dans tous les milieux sociaux, à part les ouvriers, tout le monde a un domestique ou une domestique. C'est même à la campagne, c'est des filles de ferme, des valets de ferme. Et évidemment, chez les petits bourgeois, chez les bourgeois, chez les grands bourgeois, et dans la noblesse, au lieu d'être un, ils vont être 15 ou 20. Mais donc, ça fait complètement partie des rapports sociaux. C'est complètement accepté. Et l'idée d'être au service d'une famille, de complètement disparaître, c'est quelque chose qui est complètement acquis. Après, il y a aussi des histoires, et ça, j'en parle un petit peu, de relations qui sont plus pacifiques, voire de relations de grand attachement, en fait. Où c'est, par exemple, une bonne d'enfant très liée aux enfants, où c'est une bonne qui va passer toute sa vie dans une famille. Il arrive aussi qu'il y ait des relations fortes et sincères et authentiques. Mais c'est vrai que moi, j'ai plutôt voulu montrer la trajectoire emblématique d'une bonne qui va beaucoup changer de famille. Au hasard des événements historiques, au hasard des drames intimes que traverse la famille. Et je n'ai pas choisi de rester dans une famille pendant 30 ou 40 ans. Et il y a même des histoires où, en fait, j'avais vu ces images d'archives qui étaient très bouleversantes de bourgeois qui allaient rendre visite à un ancien domestique âgé dont ils avaient pris soin. Voilà, donc il peut y avoir des liens forts et sincères. Mais dans la plupart des cas, ce sont plutôt des liens de servitude et notamment pour les femmes, une dépossession totale des droits les plus élémentaires.
Alors vous mêlez images d'archives et reconstitution. Vous avez choisi cette part-là et le fait aussi que la personne qui incarne cette domestique ne parle pas.
Absolument. Alors, elle ne parle pas parce que c'est donc la période de 1900 et la fin des années 30. Et donc, j'ai préféré me référer au cinéma muet, sachant que j'ai beaucoup d'images, films qui sont du muet. C'est aussi l'idée qu'elles n'ont pas la parole, elles n'ont pas de voix. Et donc, je trouvais ça plus intéressant qu'elle ne parle pas et que sa voix, ce soit celle de son journal. Et donc les images d'archives, c'est à la fois des images de contexte, d'actualité, ce sont des images amateurs que nous avons trouvé dans les archives départementales. Ça a été un travail très très impressionnant parce qu'en fait, comme ce sont des invisibles, il n'y a pas d'image d'elles. Et donc il a fallu 8 mois de recherche et 2 documentalistes pour arriver au bout et parvenir à trouver quelques rares images de domestiques. Et donc je mêle des factures d'images différentes. Et c'était un travail de montage à ce titre assez complexe et passionnant, puisqu'à la fois ce sont donc des images amateurs, des images d'actualité et beaucoup d'images de films, notamment d'huillet. Donc voilà, c'est de mêler cette matière filmique, parce que là aussi j'ai beaucoup travaillé le film, parce que la bonne et le domestique font vraiment partie de notre inconscient collectif, et c'est un personnage qui a été beaucoup traité au cinéma et en littérature. Et par ailleurs, je voulais absolument qu'il y ait un corps et un visage et une voix, donc celle de Félicité Lavergne, qui soit incarnée par une actrice, en l'occurrence Anna Fournier, parce que de toutes les dominations qui s'exercent sur elle, la plus forte pour moi, c'est celle du corps. Elle a un corps qui va être, entre guillemets, dressé, qui va être redressé et qui va être tendu. Et donc, cette domination et cette éducation du corps est très terrifiante, je trouve, puisque ça va au plus profond de ce qu'elle est. Voilà, et c'est un corps qu'on va masqué, c'est un corps qu'on va, on va lui demander d'être des jupons, des cols serrés, des manches longues. On va essayer de faire disparaître ce corps, parce que pour la bourgeoisie, le corps de la bonne était un corps sale, était un corps qui était un peu l'envers du corps de madame, c'est-à-dire sale, repoussant, et en même temps, c'est évidemment un corps qui crée beaucoup de fantasmes. Et voilà, et donc l'idée, c'est de faire disparaître ce corps, c'est de le malmener, c'est de l'épuiser, de le faire travailler 15 heures par jour, c'est de le violenter et c'est de le violer, puisque non seulement beaucoup de bonnes étaient violées par les maîtres, mais aussi par les autres domestiques. Donc je voulais absolument qu'à l'image, le corps de la bonne existe et qu'on comprenne à travers la trajectoire du corps et le malheur qui s'abat sur ce corps, qu'on comprenne quelle forme d'esclavagisme cela pouvait être d'être domestique à cette époque.
Et vous nous offrez aussi une histoire de premier amour, une histoire oui. où elle prend conscience qu'elle tombe amoureuse d'un des maîtres et c'est un amour impossible.
Absolument, c'est Monsieur Albert, c'était des pages et des pages, parce que là je ne raconte qu'un fragment, mais en réalité cette histoire va durer des années. Elle va tenter de le revoir. Enfin, voilà, c'est une histoire très très importante pour elle. Et évidemment, c'est un amour impossible. Et encore, elle après, je vais pas raconter tout le film, mais voilà, il se passe quelque chose avec cet homme qui va aller un peu plus loin. Mais oui, donc c'est à un moment, je raconte que 90% des femmes n'ont pas d'enfants, qu'elles n'ont aucune vie privée. De toute façon, elles n'ont pas le temps. Enfin, je dis, elles se lèvent les premières à 6 heures, elles se couchent à minuit. C'est vraiment une abnégation absolue. Et effectivement, il y a ce moment où elle tombe amoureuse de Monsieur Albert et c'est un peu comme un rêve. Et évidemment, il va y avoir une chute très violente. Mais j'imagine que ça pouvait arriver. Et de la même manière, les hommes bourgeois pouvaient tomber amoureux des domestiques. Hein. Ça allait dans les deux sens, bien sûr. Sauf que les bourgeois faisaient ce qu'ils voulaient, ou les petits bourgeois, alors que les femmes bonnes étaient complètement acculées.
Et le fait aussi, on va pas le dire, hein, mais il va se passer quelque chose, et en fait, ça va être sa plus grande douleur.
Absolument. Ça va être sa plus grande douleur. Alors, on va pas raconter.
Non, c'est pour ça que j'ai dit, ce sera sa plus grande douleur.
Oui, c'est quelqu'un. Ah, voilà. Et après, j'ai dû beaucoup me documenter sur ce sujet, bien sûr, et donc 80% des domestiques savaient lire et écrire. Et c'est vrai que j'ai choisi, à travers l'écriture, l'écriture est un exutoire, est un lieu de mémoire, est un lieu de transmission et un lieu d'émancipation. Et c'est vrai que tout n'est pas sombre dans ce film, tout n'est pas tragique, puisqu'elle va parvenir à s'émanciper. Donc voilà, il y a un espoir en tout cas pour ce personnage-là. Voilà, et c'est pour ça aussi que ce film, il est à partir de fragments de 7 journaux de bonne, chaque fragment apportant quelque chose de différent, parce que je voulais vraiment une trajectoire très emblématique, dans des lieux différents, dans des types de familles très différents, et je voulais vraiment que ce soit un cœur de femme, en fait, un cœur de voix anonyme, et c'était très important pour moi de voilà, j'aime beaucoup l'idée de faire sortir du silence et du vide de la mémoire un cœur d'anonyme, voilà, on connaît pas leur nom, mais je me dis qu'elles ont écrit ces journaux beaucoup dans la colère, dans la tristesse. C'est des journaux de femmes en colère, hein, bien sûr. Hein. Il y a peu de journaux que j'ai lus de moments très heureux. Et puis le point de départ en fait de toute la réalisation du film, ça a vraiment été de cette phrase que écrit l'une d'entre elles, qui est de voilà, j'ai l'impression que j'ai vécu, dit-elle, j'ai vécu un enfer, un cauchemar, et maintenant que je me réveille, tout semble si doux. Et donc j'avais envie que ce film soit traité comme un cauchemar, en fait, c'est-à-dire vraiment comme et avec heureusement un réveil possible.
Je vous le confirme, d'ailleurs, c'est très bien représenté par la musique de Jérôme Robotier.
Absolument. Jérôme Robotier, avec lequel je travaille depuis des années, qui est très très talentueux. Et voilà, on a aussi effectivement travaillé beaucoup sur ces différentes émotions et sur l'univers du cauchemar et de l'enfermement. Et c'est pour ça que quand je filme Anna Fournier dans le rôle de Félicité Lavergne, j'ai vraiment voulu être tout le temps de son point de vue et dans des cadres très serrés, avec aucune profondeur de champ. Donc autour d'elle, tout est flou, tout est incertain, comme le monde, c'est-à-dire qu'elle est à ce point enfermée et en exil qu'il va falloir qu'elle attende des années et des années avant d'avoir la possibilité de s'ouvrir. Et voilà, et cette musique accompagne merveilleusement bien cette solitude intérieure, cet enfermement et cet exil.
Alors les gens, heureusement, ne vont pas attendre des années et des années pour le découvrir, car bah, il passe le dimanche 5 mars à 22h50 sur France 5.
Absolument, et après il sera en replay pendant plusieurs mois.
Donc, tout à fait, oui.
Sur la possibilité de le voir en replay sur le site France Télé Plus.
Tout à fait. Eh bien, franchement, c'est un réel plaisir de vous avoir eu avec nous, Valérie.
De partager.
Que vous avez pu nous exposer, voilà, Journal d'une bonne, et m'en ravir ma curiosité, parce que c'est vrai que je n'avais pas eu cette opportunité de pouvoir discuter avec vous au festival.
Je vous remercie beaucoup, c'était un grand plaisir de pouvoir échanger. C'est toujours très important voilà, d'avoir ces espaces de discussion, de dialogue, et de pouvoir exposer une démarche, absolument.
Merci beaucoup. Merci.
Bonne journée.
À vous aussi.
Au revoir.
Au revoir. Je pense que tout est dit, que vraiment Valérie nous a offert un moment d'émotion, de réalité, d'ouverture sur la condition d'une domestique dans les années 1900. Donc bah, je vous invite vraiment à être au rendez-vous ce dimanche 5 mars à 22h50 sur France 5 pour découvrir Journal d'une bonne. Ceci clôture notre show devant TV documentaire. Et donc, bah, soyez au rendez-vous sur France 5 pour découvrir Journal d'une bonne, parce que c'est un pan d'histoire complètement invisible. Je vais reprendre les mots de Valérie Mantz, et d'ailleurs, je la remercie énormément d'avoir été avec nous. It's always teased.